Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les journaux, Babel Pongo Basima.
Le ministre du Commerce extérieur et le secrétaire général de la SLECAF ont échangé hier à Addis Abeba sur les contours de la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continentale africaine, ses avantages ainsi que les pays membres, ce que les pays membres devraient mener comme action pour sa concrétisation sur terrain. C'est en marge du 39e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui commence demain. Vous suivrez les explications de Julien Paloukou. La plateforme politique Le Congo d'abord plaide pour l'installation d'un tribunal pénal international en RDC afin de juger les auteurs des crimes commis depuis 30 ans dans le pays. C'est pour respecter son credo selon lequel les auteurs d'actes contraires à la loi ne doivent pas rester impunis. La Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a suspendu ses matchs à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier se sont exprimés sur cette problématique de l'organisation de la LINAFOOT. Vous le suivrez dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. L'accélération de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine, SLECAF, a été au cœur d'une réunion stratégique tenue hier jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre a réuni le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paloukou, et le secrétaire général de la SLECAF, Wamkele Mene. Elle s'est tenue en marge du 39e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu du 14 au 15 février sous le thème « Assurer la disponibilité de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs » pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Julien Paloukou, ministre du Commerce extérieur, explique les avantages de la zone de libre-échange et ce que les États doivent mener comme action pour sa concrétisation sur terrain. C'est dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Comme vous le savez, les chefs d'État tiennent, en marge de ces sommets, d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de ces zones de libre-échange continentale africaine, qui est en fait la solution au développement du continent. Beaucoup de gens craignent que lorsqu'on va ouvrir les frontières, on va perdre suffisamment de recettes au niveau des douanes. Mais il a été question de pouvoir échanger mutuellement sur les bénéfices que nous allons obtenir de cette SLECAF, parce que le libre-échange ne concerne pas tous les produits qui viennent de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis. Le libre-échange concerne seulement les produits d'origine. Et donc, nous avons essayé un peu de voir comment est-ce que nous allons impliquer les ministères des Finances pour que dans tous les pays africains, les ministres des Finances puissent donner des instructions claires au niveau des douanes pour qu'on commence à appliquer la mesure qui avait été déjà prise par les chefs d'État, celle de commencer à faire la décote sur les taxes que nous devons commencer à délester. Nous devons nous délester de certaines taxes pour permettre que les produits africains puissent circuler librement. Parce que les études ont démontré que d'ici 2030, lorsqu'on mettra en œuvre totalement la zone de libre-échange continentale, notre PIB, c'est-à-dire les richesses africaines, vont augmenter de plusieurs milliards de dollars américains.
Un autre rendez-vous dans un tout autre domaine s'est tenu à Brazzaville. La ministre de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo, insiste sur la bonne gestion des forêts, cela afin d'améliorer les conditions de vie des populations rurales en République démocratique du Congo. Elle a livré son point de vue au lendemain de la réunion ministérielle de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu, tenue en début de semaine au Congo-Brazzaville. Elle affirme avoir porté la voix de la RDC, rappelant le statut du pays comme pilier de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce compte-rendu est signé Blaise Ndongala.
La ministre Marie Nyange explique que la rencontre de Brazzaville a offert l'opportunité à chaque pays du bassin du Congo de préparer des projets bancables en vue d'obtenir des financements auprès des bailleurs. Elle estime que les pays de cette région ont tout intérêt à gérer durablement leurs forêts pour préserver l'équilibre climatique.
Nous devons préserver tout ceci à travers des projets qui ont réglé des problèmes qui se posent dans les écosystèmes dégradés et à travers les reboisements, de manière à maintenir l'équilibre climatique. Je commande l'utilisation rationnelle des forêts, que chacun fasse un effort pour planter ne fût-ce qu'un arbre.
Ces membres du gouvernement souminois a également exhorté la population congolaise à intérioriser la culture des reboisements. Au cours des échanges de Brazzaville, Marie Nyange indique avoir insisté sur la nécessité pour les continents africains de protéger et de structurer son propre marché carbone. Cette rencontre, élargie au ministre des Finances, visait à préparer la table ronde des bailleurs destinée au financement du plan d'investissement du Fonds bleu. Elle constituait également une étape préparatoire majeure avant le sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements prévus à Nairobi en marge du sommet France-Afrique.
Physique environnement note aussi le climat. Des pluies torrentielles enregistrées ces derniers jours à Chicapa dans la province du Kasaï ont accéléré la progression du ravin Saïsaï situé au quartier Kanangaï. Cette érosion a déjà causé d'importants dégâts matériels et plongé plusieurs familles dans la précarité. La société civile locale appelle les autorités tant provinciales que nationales à intervenir rapidement pour éviter le pire. Qu'en est-il, André Katendengalamloumé?
Selon des sources locales, au moins une dizaine de maisons ont été englouties, laissant leurs occupants sans abri. Les sinistrés vivent désormais dans des conditions humanitaires préoccupantes. Outre les habitations détruites, l'érosion a également coupé plusieurs avenues, perturbant la circulation dans cette partie de la ville. Face à l'ampleur des dégâts, Alain Kacham, coordonnateur provincial de la société civile du Kasaï, lance un appel pressant aux autorités. Il plaide pour une intervention urgente afin de limiter les pertes et protéger les populations menacées.
Avec les pluies d'avant-hier, plusieurs habitations ont été englouties, laissant des milliers de familles sans logement. Nous appelons les autorités à diligenter des travaux de lutte anti-érosive sur les sites de Saïsaï pour éviter la progression rapide. Ça serait une façon de protéger la population locale.
À noter que la concession Ménonite, qui abrite les sièges de l'Assemblée provinciale ainsi que l'avenue Lumumba, figure parmi les sites désormais exposés au danger si aucune mesure urgente n'est prise. Kananga, André Katendengalamoulemé, Radio Capi.
Autre nouvelle, le credo de la plateforme politique Le Congo d'abord est que les auteurs d'actes contraires à la loi ne doivent pas rester impunis. Son coordonnateur Toussaint Alonga l'a rappelé lors de la présentation officielle de ce regroupement politique. C'était hier jeudi à Kinshasa. Cet acteur politique insiste sur l'installation d'un tribunal pénal international en RDC afin de juger les auteurs des crimes commis depuis 30 ans dans le pays. Retrouvons Blaise Ndongala.
La coalition Les Congo d'abord affirme vouloir promouvoir l'éveil des consciences à travers des valeurs telles que la culture du bien, du vrai, de la justice et de la bonne gouvernance. Cette plateforme politique dit vouloir également raviver les combats des idées et la force des propositions dans l'intérêt de la RDC. Son coordonnateur national explique que sa démarche politique repose sur la demande d'installation d'un tribunal pénal international en RDC chargé de juger tous les crimes commis sur le territoire national depuis plusieurs décennies. Toussaint Alonga.
Nous souhaitons l'installation d'un tribunal pénal international pour juger tous les crimes commis au Congo. L'avantage, c'est lequel? C'est que ce tribunal sera compétent de juger à la fois les criminels congolais qui ont commis les crimes sur le sol congolais et les étrangers qui ont commis les crimes sur le sol congolais.
Il a également indiqué que l'objectif est de mettre fin à la spirale de violence et au cycle infernal qui, selon lui, marque la vie politique en RDC, notamment élections, contestations, rébellions, dialogue, puis gouvernement d'union nationale. Pour Toussaint Alonga, l'ouverture du chef de l'État au dialogue inclusif s'inscrit dans la continuité des efforts de paix déjà entrepris par les gouvernements de la République afin de parvenir à un consensus sur les réformes nécessaires en matière de gouvernance.
Santé, Matadi devient cette semaine le centre stratégique de la lutte contre les épidémies en République démocratique du Congo. La ville accueille depuis mercredi les assises de la revue annuelle 2025 de la surveillance épidémiologique nationale, une rencontre majeure pour la sécurité sanitaire du pays. Les travaux ouverts par le vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntela, réunissent des experts nationaux et internationaux, des partenaires techniques et financiers ainsi que des responsables du secteur de la santé. Cette rencontre vise à examiner en profondeur le système national de surveillance des maladies afin de renforcer les capacités de riposte face aux épidémies qui demeurent un grave problème de santé publique en RDC. Nana Plurichmambo.
Au cours de cette revue annuelle, les participants évaluent la capacité du pays à détecter rapidement les épidémies, à y répondre efficacement et à protéger les populations contre les menaces sanitaires récurrentes. Pendant 7 jours, les échanges porteront sur les leçons tirées des crises passées, les faiblesses à corriger et les stratégies innovantes à mettre en œuvre pour améliorer la prévention, l'alerte précoce et la réponse aux urgences sanitaires. À l'issue des travaux, des recommandations concrètes seront adoptées afin de renforcer durablement la résilience du système de santé congolais et de réduire l'impact des futures épidémies. En accueillant cette rencontre stratégique, Matadi confirme son rôle de carrefour national des concertations sanitaires, contribuant activement à la protection des populations et à l'amélioration de la gouvernance de la santé publique en RDC, a déclaré le vice-gouverneur du Congo central Prosper Ntela dans son allocution. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Et pour cette découverte réalisée dans le Haut-Katanga, la police a démantelé mercredi une fabrique de boissons à forte dose d'alcool et impropre à la consommation à quelques kilomètres de Lubumbashi. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération Ondobo. Je vous signale que la police a aussi interpellé des Indiens travaillant dans cette fabrique et séjournent illégalement en RDC. Le point avec Paulin Munanga.
La police a découvert cette fabrique de whisky en petites bouteilles et en plastique dans une concession non autrement identifiée. Sur les lieux, la police a trouvé des produits qui entrent dans la fabrication de ces boissons dangereuses pour la santé. Ce sont notamment des bidons de 20 litres contenant l'acide hydrochlorique, des sacs de soude caustique, des sacs de sucre, ainsi que d'autres produits. Il y avait aussi une importante quantité de petites bouteilles contenant des boissons fortement alcoolisées, rangés soigneusement dans des cartons et des rouleaux d'étiquettes qui sont destinés à être placés sur les petites bouteilles de whisky. La police a interpellé 6 sujets indiens qui travaillaient dans cette fabrique. Ces personnes n'ont aucun document en leur possession, pas de passeport ni de visa. Après leur audition, ces indiens ont été conduits à la Direction générale des migrations du Haut-Katanga. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Nous sommes en Nord Kivu. La société civile de Mangina, commune rurale située à 30 km de la ville de Beni, lance une alerte. Elle appelle les autorités militaires à prendre des mesures immédiates pour protéger la population locale ainsi que les zones agricoles. Cet appel intervient alors que les alertes communautaires signalent le mouvement des ADF dans la partie nord de Mangina, zone également agricole. Kakule Mongozi, président de la société civile de Mangina, demande également à la population et aux agriculteurs de redoubler de vigilance. Il s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
On venait d'apprendre, c'est lundi 9 février 2026, le mouvement de l'EDF qui a quitté le nord, où on a parlé de Kukutama, c'est le côté nord. IAP, RSKP a déclaré que cet ennemi avait déjà érigé un campement là-bas. Alors, quand on dit que cet ennemi a pris la direction du sud, on comprend Mangina fait partie des agglomérations et des champs qui se trouvent du côté sud. C'est pourquoi nous réitérons donc une vigilance très accentuée de la part de la population et des agriculteurs. À cette occasion, nous lançons un appel au service de sécurité, surtout au secteur opérationnel, le Sokola 1, de lancer les opérations conjointes FRDC-UPDF pour anticiper ces mouvements. Mais aussi, nous appelons donc la population à une dénonciation et alerte au service de sécurité.
Nous n'avons pas pu obtenir la réaction du porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord des FRDC. Toujours au Nord, il faut noter aussi ce constat des acteurs de la protection de l'enfance à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'utilisation des enfants soldats. C'était hier 11 février. Selon eux, une dizaine de groupes armés, notamment des ADF, AFC M23 et d'autres groupes locaux, continuent de recruter des enfants à Benibutembo et Lubero. La cérémonie organisée par la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO s'est déroulée au quartier général de la MONUSCO à Beni, en présence notamment de quelques autorités locales. Martial Papimoukeba pour d'autres détails.
L'ONG Enfants pour l'Avenir et le Développement EADEV indique que plus de 2000 enfants ont été recrutés par des groupes armés à Benibutembo et Lubero à 2025. Son coordonnateur, Germain Lufungula, évoque des chiffres alarmants.
Le recrutement d'enfants, il se porte à bonne santé. Nos statistiques de fait d'année 2025 ont réalisé qu'il y a au moins 2054 enfants, parmi lesquels 423 filles exploitées, utilisées par les responsables des groupes armés. Nous avons l'ADEF, le M23, mais à côté de cela, il y a beaucoup de groupes armés nationaux. C'est vraiment un chiffre alarmant.
Anissé Kibwana, secrétaire administratif de la localité de Bahira Kanda Mavivi, dans les territoires de Beni, lance un appel aux groupes armés.
Les enfants, leur place n'est pas dans des groupes armés. Leur place, c'est dans des familles, c'est à l'école, pour qu'ils puissent garantir un avenir meilleur pour notre pays. Tous les chefs des groupes armés qui gardent encore nos enfants dans leurs groupes respectifs, qu'ils puissent libérer les enfants. Parce que garder ses enfants dans des groupes armés est un crime contre l'humanité.
La région de Benibutembo et Lubero est touchée par l'insécurité depuis plus d'une décennie. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président sud-africain a annoncé hier le déploiement de l'armée dans la lutte contre le crime organisé. À l'origine, signale africanews.fr, les guerres entre gangs de trafiquants de drogue dans la région du Cap et aussi les attaques liées à l'exploitation minière illégale dans la province de Gauteng près de Johannesburg. Face au fléau, Ramaphosa promet la tolérance zéro. Au nombre des mesures promises par le président sud-africain figure aussi le recrutement de 5500 policiers et le renforcement des services de renseignement.
L'invité.
La Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a suspendu ses matchs à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais hier jeudi se sont exprimés sur cette problématique de l'organisation de la l'INAFOOT. On les écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
Alors, je me tourne directement du côté de Monsieur Delphin Kikuni, ancien vice-président de la l'INAFOOT, analyste sportif. Quelle est justement votre analyse en rapport avec cette crise? On peut qualifier ça de crise parce que ça pose un sérieux problème.
Oui, c'est vraiment triste. C'est triste de voir que notre football, notre championnat qui a été compté parmi les 5 meilleurs championnats d'Afrique, en train de mourir de sa propre mort. Et c'est regrettable. Et on doit déplorer cela, on ne doit pas souhaiter que ça demeure. Nous devons jouer au football. On ne doit pas continuer de rêver de la cueillette que nous produit aujourd'hui notre équipe nationale, où vous avez des rêves de prouesse, des rêves d'être champion, et sans compter sur la natte et sur laquelle le football devrait d'abord s'asseoir, qui est notre championnat national. Qu'il se meure de cette manière-là, ça interpelle et ça doit interpeller tout le monde et à tous les niveaux. Au niveau des organisateurs du football, au niveau de ceux qui doivent amener la sécurité, et c'est l'État, et au niveau également de ceux qui viennent suivre le spectacle qui est produit par nos acteurs, que sont les supporters. Donc, à tous les niveaux, je pense qu'il faut s'interroger. On doit sûrement s'interroger pour savoir où nous allons. Où nous allons avec notre football. Pourquoi nous l'abandonnons? Pourquoi nous enterrons ce football? Cet football qui était attrayant et qui avait même des allures d'un football professionnel. Je me rappelle, à une belle époque, on alignait dans notre football des joueurs qui étaient titulaires. Et alors titulaires dans leurs équipes nationales A. Ces joueurs qui étaient titulaires dans leurs équipes nationales venaient jouer dans notre football. Tout simplement, ils étaient attirés par notre championnat.
Alors, monsieur Héritier Yindoula Mukole, directeur des communications du tout-puissant Mazembe, gestionnaire du stade du TP Mazembe, qu'est-ce qui vous a motivé pour dénoncer cette situation? Est-ce qu'en termes de responsabilité, vous pensez que les clubs n'ont pas un rôle aussi à jouer par rapport à cette situation, cette crise qui prévaut en ces moments?
Je vais d'emblée parler d'abord de la décision du ministre des Sports pour dire que c'est une décision inopportune et populiste, surtout politique. Cette décision traduit la démission de l'État de la République démocratique du Congo et surtout dans sa branche qui concerne les sports. Aujourd'hui, je suis très flatté de mon grand frère avec vos studios, ancien vice-président de la Ligue nationale de football, qui a parlé de la démission de l'État. L'État. Aujourd'hui, analysons l'ordonnance 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères. Et je vais parler des 14 attributions du ministère. Que quand vous analysez toutes ces 14 attributions, il y a une démission totale. Et la démission totale a pour conséquence des infrastructures en lambeaux, l'arrêt des activités, quelque chose qui ne peut jamais se passer. Et dans les attributions, vous avez l'organisation et la promotion des rencontres au niveau national et international. C'est dans les attributions du ministre. Et si vous regardez ces attributions, nous avons un ministère de la justice. Et je vais vite ouvrir une parenthèse. Si vous voyez Héritier aujourd'hui, allez toucher seulement les portails du palais de la nation ou tout comme du palais du peuple. Demain, il y a procès en flagrance. Alors que c'est une infrastructure de l'État. Les stades sont aussi des infrastructures de l'État qui ne sont pas prises en charge. On s'occupe aux infrastructures qui sont politiques. La démission, elle est totale de notre ministre. L'État congolais doit assumer qu'il a démissionné.
Monsieur Arsène Mpunga, vous en tant que chroniqueur sportif, quelle est l'analyse que vous faites par rapport à cette situation qui prévaut au niveau de la l'INAFOOT où les matchs à Kinshasa sont suspendus jusqu'à nouvel ordre?
Vous savez, cette décision m'a surpris et me chagrine en même temps.
Parce que j'ai comme l'impression que dans notre pays, on commet les mêmes erreurs chaque année et on n'en tire aucune leçon. On s'attend à des miracles en espérant que les mêmes actions produisent des résultats différents. La situation que nous déplorons, celle des violences dans les stades, ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte de très longtemps. Il y a eu des propositions et même des ateliers, des recommandations ont été formulées par des structures indépendantes aux instances qui gèrent le football. Mais jamais personne n'a pris au sérieux cette problématique et on a comme l'impression que ce qui préoccupe les dirigeants, qu'ils soient politiques au niveau du ministère ou encore au niveau de nos instances, que ce soit à la Linafoot ou à la FECOFAS, la gestion événementielle, la gestion des événements. Mais la construction du football lui-même ne les intéresse pas.
Vous pouvez écouter l'intégralité de ce numéro de Dialogue entre Congolais sur www.radiokaipi.net et sur toutes les plateformes numériques de la radio. Fin de ce journal préparé par Lievin Bwingami, son nom par Dieudonné Eniangaza. Merci de votre attention et bonne journée.